Le rôle politique de la femme est-il méconnu?
Ça, oui. Parce qu'on a parlé d'une façon générale sur l'égalité des sexes à plusieurs reprises, alors on a changé un peu le point focal en parlant en particulier, comme dans la citation que Mahalia a lu, du rôle politique de la femme. Donc pour répondre à la question du titre, je dirais que oui, le rôle de la femme est méconnu et même méprisé dans la plupart des pays. Si on se tourne vers la foi, c'est en livre, en particulier Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá dit très clairement que non seulement les femmes ont toutes les capacités des hommes, il dit, c'est un passage assez surprenant d'ailleurs, même choquant pour certains, il dit, quand je dis que les femmes ont toutes les capacités des hommes, je veux dire toutes les capacités, il dit, même si elles étaient entraînées à la guerre, les femmes pourraient être aussi brutales et inhumaines que les hommes. Mais que ça n'arrive jamais, il dit. Mais il dit donc, même si les femmes sont en général plus douces que l'homme et tout ça, ce n'est pas qu'elles n'ont pas la capacité d'égaler l'homme, même dans ce domaine de brutalité. Non, mais il le dit. C'est dit. It's not in there, do we?
Non.
Alors donc, ça c'est important. Donc, que la différenciation de rôle ne tient d'aucune façon à l'incapacité des femmes à jouer un rôle aussi grand, aussi agressif, si vous voulez, aussi fort que les hommes. D'ailleurs, Abdu'l-Bahá aussi cite le cas, enfin que nous connaissons tous, le nom de certaines femmes qui, à diverses époques de l'histoire, ont régné sur les hommes et qui ont régné avec beaucoup de succès. Je me remémorerai certains noms en pensant à ce soir. Il y a Cléopâtre, évidemment, en Égypte, qui en fait avait régné sur un grand empire en Égypte. Il y a Catherine le Grand, la Grande, enfin Catherine II, de la Russie, qui a été vraiment responsable de la transformation de la société russe en une société moderne. C'est-à-dire, c'était sous son règne que les Russes se sont tournés vers l'Europe. À cette époque-là, vous connaissez peut-être qu'on parlait le français dans le cours de la Russie. C'était Catherine qui avait instauré sa pratique. Et ce n'est pas nécessairement la question de parler le français, mais le fait de parler le français garantissait une certaine ouverture d'esprit vers l'Europe et vers des choses européennes. Et justement, à cette époque-là, la France était quand même assez le centre culturel de l'Europe et dans une certaine mesure le monde. Et par conséquent, par exemple, il avait même des grands savants qui sont venus s'installer à Saint-Pétersbourg. Par exemple, Euler, le grand mathématicien suisse, enfin, il était presque français, mais il est né à Bâle, enfin, qui est juste quelques kilomètres de la frontière avec la France. Mais en tout cas, Euler, qui est un grand mathématicien, est venu, était attiré à Saint-Pétersbourg, et puis il a d'autres savants et érudits qui ont été attirés vers Saint-Pétersbourg, qui est devenu une sorte de centre, et tout ça sous le règne, évidemment, c'était suite à Pierre le Grand, qui avait construit Saint-Pétersbourg, mais c'est elle, si vous voulez, qui avait amené à florissant la vision que Pierre le Grand avait de ce que devait être Saint-Pétersbourg. Il y a aussi, par exemple, la reine Victoria en Angleterre qui a régné très longtemps au 19e siècle et qui était une reine enfin, extrêmement puissante. Nous savons que La royauté en Angleterre est devenue un peu plus symbolique qu'autre chose maintenant, mais à cette époque-là encore, ce n'était pas du tout symbolique. Elle avait un grand pouvoir politique et elle se servait de ce pouvoir politique. Et il y a d'autres exemples. Et à toutes les époques, j'ai cité quand même Cléopâtre, qui est il y a peut-être 3000 ans. Et ensuite Catherine disons au temps moderne Victoria. Mais je ne suis pas le seul à remarquer le fait suivant, que les femmes qui ont régné dans la politique à ces époques passées ont payé un certain prix, et le prix c'était leur fémininité, c'est-à-dire que elles ont rempli ce rôle en devenant en quelque sorte des hommes. C'est-à-dire, plus précisément, c'est les valeurs masculines qui ont dominé. C'est-à-dire, ces femmes ont réussi parce qu'elles ont appris comment manipuler les valeurs masculines de l'agressivité et tout ça, la guerre, la confrontation, l'intrigue, la manipulation, toutes ces choses-là que les hommes avaient fait pendant des siècles, même des millénaires. Les femmes ont dû l'apprendre, et donc le fait que la femme a réussi, ça démontre ce qu'Abdu'l-Bahá a dit, que la femme peut être l'égale de l'homme dans n'importe quoi, même en étant une dictature, ou etc. Catherine la Grande a fait couper plus d'une tête, etc. En fait. Ces femmes qui sont arrivées au pouvoir ont exercé le pouvoir de la même façon que les hommes. Donc, on ne peut pas dire que même ces exemples sont importants parce que ça montre la capacité de la femme à égaler l'homme, même dans ce domaine de politique, mais évidemment, ce n'est pas un exemple de l'influence de ce qu'on peut appeler le féminin dans la politique. Parce que, comme j'ai dit, les femmes sacrifiaient leur fémininité, si vous voulez, ou leur valeur féminine, pour réussir dans le monde. Et je ne suis pas non plus la première personne à remarquer que c'est encore le prix que beaucoup de femmes paient, par exemple, pour réussir dans les affaires aujourd'hui, même aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont maintenant rendu très très haut dans le monde des affaires, enfin président de compagnie et tout ça. Mais ces femmes arrivent à ces choses-là, le monde des affaires est tellement compétitif que vous n'arriverez pas à un sommet comme ça sans être vraiment un arriviste épouvantable, n'est-ce pas? Et que vous soyez un arriviste de femmes, enfin. C'est quand même, c'est les mêmes méthodes, c'est les couteaux tirés et tout ça, par lesquels les gens arrivent. Donc, si on dit que le rôle politique de la femme est méconnu, je dirais que c'est surtout les valeurs féminines qui sont toujours repoussées. Cette semaine, j'ai lu une sorte d'histoire, enfin c'était l'histoire de toute la science du 19e, 20e siècle qui a amené à la création de la première bombe atomique. Alors, voici ce que j'ai découvert, j'ai le livre, je peux vous le montrer, et ça semble comme une chose inventée, mais c'est vrai, et toutes, je ne dis pas certaines, toutes, les grandes découvertes à la base de la science moderne étaient faites par des femmes. Toutes, sans exception. C'est-à-dire, tout le travail d'Einstein, de Niels Bohr, de Heisenberg, tous ces gens-là étaient basés sur les découvertes faites par les femmes et quiconque d'autre. Pas quiconque d'autre. Alors, je vous raconte un peu. D'abord, la radioactivité a été découverte, comme on sait, par Marie Curie, et elle a été reconnue pour ça, elle a reçu le prix Nobel. Alors donc ça c'est une histoire, si vous voulez, plutôt positive, dans le sens qu'elle a été reconnue. Mais c'est une femme, Christine Lemay, qui a découvert la fusion. Et cette histoire est beaucoup moins drôle. Elle était une Anglaise, elle a commencé vers 1919 ou 1920 à Cambridge. Elle était la seule femme en sciences à Cambridge. Elle était l'élève de Rutherford. Rutherford était à McGill. Hein. Rutherford a passé un temps à McGill. C'est lui qui a découvert le noyau de l'atome. Okay. Et il était connu comme un homme, enfin, très gentil et tout ça. Mais Rutherford s'est moqué ouvertement de Christine Lemay dans son cours et il a incité ses élèves, enfin, qui étaient tous des hommes, enfin, à se moquer d'elle. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle venait au cours, c'était la moquerie générale. Donc, il a fait vraiment un bouc émissaire de cette femme-là, et de façon complètement gratuite. Et même, en quelque sorte, il semble que les élèves qui, peut-être, n'auraient pas voulu faire ça, ils étaient mal vus s'ils ne le faisaient pas. C'est-à-dire qu'il avait des pressions, vraiment, par Rutherford, pour, en quelque sorte, rendre la vie de cette femme la plus difficile possible. Elle avait découvert, par ses recherches, que l'élément principal sur le Soleil, c'est l'hydrogène. Tout le monde, tout l'établissement scientifique à ce moment-là disait que c'était de fer. Alors, et la fusion n'est pas possible avec le fer, n'est-ce pas? Il faut des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium et tout ça. Alors, finalement, elle a quitté l'Angleterre, elle est allée à Harvard, à Boston. Là, son sort était légèrement meilleur, mais pas beaucoup, parce que son directeur de thèse était justement une des personnes qui prétendait avoir prouvé que l'élément dominant sur le Soleil, c'était le fer. Donc, ses travaux ont non seulement prouvé que l'hydrogène, mais ses travaux ont en quelque sorte montré l'erreur dans son travail. Donc, il a forcé finalement, ça a pris comme 5 ou 6 ans avant qu'elle puisse publier sa thèse, et même quand elle a finalement publié sa thèse, ils l'ont fait inscrire dans la thèse l'abondance d'hydrogène que j'ai découverte sur le Soleil est certainement pas réelle. Et elle n'a jamais reçu vraiment son dû pour cette découverte, c'est-à-dire à peu près 10 ans après sa thèse, les autres l'avaient rattrapé, et c'était les hommes qui ont dit « Ah non, il a de l'hydrogène sur le Soleil », tout ça. Tout le monde acceptait parce que c'était les hommes qui disaient. Mais c'était une femme qui l'a découvert, qui l'a même prouvé dans sa thèse et tout ça. Elle a quand même terminé sa carrière à Harvard, enfin, elle n'a pas osé rentrer en Angleterre. Sa contribution a été finalement reconnue. Mais quand même, ça c'est quand même au XXe siècle, en fait, ce n'est pas l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Une troisième histoire qui est encore plus choquante. Je pense que c'est encore plus choquant. La découverte de la fission nucléaire, qui est la base de la bombe atomique, a été faite par une femme juive, Elaine Mitten. Et ça a été fait dans sa laboratoire, et elle avait montré à Otto Hahn, un chimiste allemand, comment interpréter ses résultats. Et Hahn a reçu le prix Nobel pour avoir découvert la fission, et il avait dénoncé Mitten comme juive, au parti nazi, et elle était exilée en Suède. Elle n'était pas tuée, heureusement, mais elle était exilée en Suède. Elle a fini ses jours en Suède. Donc, non seulement... Et Mitten, il a des archives, heureusement il a des archives, parce que Mitten lui avait écrit exactement, il avait fait les calculs. D'abord, quand ils étaient jeunes étudiants, ils travaillaient ensemble. On pensait même qu'ils allaient se marier. Ensuite, j'imagine que, si je devais spéculer, probablement Hahn s'est rendu compte assez vite qu'elle était plus intelligente que lui, Et donc, il dit, bon, ok, je vais tirer le bon part de ça. Je vais attendre faire mon coup au moment voulu. Je vais profiter de sa connaissance et tout ça pour le moment. Et puis au moment voulu, etc. Mais c'est ça qu'il a fait. Il a dénoncé au parti nazi. C'était en 1938. Et donc, elle est partie en Suède. Et donc, mais même Hahn, quand il l'a dénoncé, elle aurait pu même être tuée ou envoyée dans les camps de concentration. Ils s'en foutaient. D'ailleurs, même après avoir reçu le prix Nobel, il avait même prétendu dans certains documents ne pas même connaître cette femme ou l'avoir connue. Et tous les scientifiques sont d'accord sur la base des calculs et aussi les travaux précédents de Hahn qu'il était incapable de faire cette découverte. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la force d'esprit d'avoir fait cette découverte. Et c'est une femme qui l'avait fait. Alors, ce sont trois histoires parmi d'autres. Mais ça, c'est au XXe siècle. Ça, c'est pas l'histoire ancienne et tout ça. Et sauf dans le cas de Marie Curie, les femmes non seulement devaient lutter contre enfin les choses habituelles, mais contre les choses comme le parti nazi, etc. Enfin, donc tout le poids, si vous voulez, de l'établissement masculin était mis en œuvre pour les écraser, n'est-ce pas? Pour les écraser. Alors, Dieu sait combien d'autres choses, enfin, ça peut. Alors donc, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est les valeurs masculines qui prédominent, encore dans les domaines. Les femmes commencent à rentrer en science, etc., etc., mais c'est les valeurs masculines. Et quelles sont ces valeurs que je dénomme masculines? D'agressivité, de compétition, surtout de compétition. Le milieu scientifique, comme le milieu des affaires, est extrêmement compétitif. Et on ne peut pas réussir sans acquérir enfin, cette capacité de compétitionner avec les autres et tout ça. Alors, Abdu'l-Bahá dit que la fin de la guerre serait due largement dans la mesure, disons, de la participation des femmes dans les affaires politiques et sociales, c'est-à-dire dans les prises de décision. Et il a dit que la guerre ne trouvera pas sa fin à moins que ou jusqu'à ce que la femme ait accédé avec sa voix, sa pleine voix dans les affaires collectives de l'humanité. Alors, on peut maintenant, je pense avec tous les événements dont on parlait tout à l'heure, on peut commencer vraiment à comprendre ça. Moi, je peux vous dire la chose suivante. La culture masculine, parce que je peux en parler, parce que j'ai subi la culture masculine, ça nous entraîne, si je peux parler en solidarité avec mais d'autres hommes, ça entraîne les hommes à être agressifs et insensibles aux besoins des autres. Les sports, que vous le vouliez ou non, tout le système des sports à l'école, etc., les sports professionnels, tout ça, ça projette une image de mâle qui n'est pas du tout sensible aux autres, qui est prêt à écraser l'adversaire par tous les moyens, etc., etc. Et puis le militaire, et toutes les sociétés masculines sont basées sur ces sortes de liens où les hommes se sentent solidaires vis-à-vis des autres, vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes plus faibles, n'est-ce pas, ou qui sont perçus comme plus faibles. Et dans ces milieux-là, on n'ose absolument pas montrer ses faiblesses ou un souci pour le bien-être des autres, etc. Là, on était immédiatement traité de fille, enfin, de tapette ou de tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Si on montre le moindre signe de valeur douce, on peut appeler, ou de compassion, on est immédiatement écarté de ce milieu. Moi-même, j'avais songé, par exemple, à faire du basket, parce que j'étais grand même quand j'étais au high school, et j'ai commencé, j'ai fait quelques sessions, et j'ai détesté tellement l'ambiance dans l'équipe que je ne pouvais pas endurer ça. C'est-à-dire que, écoutez, moi, je ne suis pas un naïf, mais enfin, de parler du sexe dans des termes grossiers pendant 2 heures et rien d'autre. Enfin, il y a une limite quand même, n'est-ce pas? Et puis c'est pas simplement c'est le fait de parler, mais la façon qu'on parle, n'est-ce pas? La façon et que les hommes se vantent de parler de cette manière-là, n'est-ce pas? Mais c'est pas juste ça, mais je veux dire que il n'a vraiment aucune... Il n'y a aucun moyen terme entre ces systèmes de valeurs masculines et une société basée sur la coopération et l'entraide. C'est-à-dire, c'est pas possible. Il peut y avoir l'entraide et la coopération, mais c'est seulement au sein d'une entreprise qui va compétitionner avec une autre entreprise, n'est-ce pas? Comme justement dans un jeu de football ou de compagnies qui se compétitionnent ou de nations qui se compétitionnent, etc., etc. Donc, bref, je conclue. Il n'y a pas de doute à mon esprit, je suis prêt à défendre la thèse, que les valeurs de compétition, d'agressivité, d'insensibilité aux besoins des autres, d'égocentrisme dans le sens de donner priorité à ses besoins sur les besoins des autres et tout ça, ce sont des valeurs véhiculées par la culture masculine, historiquement et actuellement, et qu'il n'y a aucune façon que les femmes ou des hommes qui ne partagent pas ces valeurs vont intérêt que nous au sein de ces systèmes-là. C'est-à-dire que si vous allez au sein de ces systèmes, soit vous adoptez ces valeurs, comme j'ai dit, comme des femmes qui ont réussi dans les affaires et tout ça, ou bien si vous maintenez vos valeurs, alors tout simplement on vous met à l'écart et vous n'allez pas réussir. Mon père est un exemple. Et moi, je vais juste raconter cette histoire parce que c'est quand même assez impressionnant. J'avais toujours pris mon père pour une personne très ordinaire. Je veux dire, je ne voyais rien d'exceptionnel chez mon père. Et je l'aimais beaucoup, il m'aimait et il était très gentil, ce qui est déjà beaucoup, enfin, j'en conviens. Mais il était un homme d'affaires, il travaillait pour une compagnie, et puis il n'était pas médecin, il n'était pas avocat, il n'avait pas une profession libre, et puis il n'avait pas d'ambition intellectuelle non plus. Il est allé à l'université, il avait un diplôme universitaire dans les années 20, enfin, quand très peu de personnes avaient des diplômes universitaires. Il avait évidemment l'intelligence pour faire une carrière intellectuelle, par exemple. Mais il n'avait aucune ambition de faire ça. Pour lui, le centre de sa vie, c'était sa famille. Bien sûr, il était extrêmement loyal envers la compagnie pour laquelle il travaillait. Alors, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est simplement la suivante. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on habitait une petite ville en Caroline du Nord. Et puis, la compagnie a dit à mon père, on veut vous transférer à Chicago parce que c'est la prochaine étape dans votre carrière. Et il était presque un cofondateur de la compagnie. Il était parmi les premiers, qui ont fondé la compagnie et tout ça. Donc, ce n'était pas du tout impossible qu'il soit destiné à être un vice-président et même un président de la compagnie, n'est-ce pas, en fait. Et sûrement, d'ailleurs, il aurait pu le faire s'il avait eu l'ambition. Alors, à ce moment-là, il a dit sans hésitation, jamais je vais amener ma famille au milieu de cette foutue de guerre dans une ville infernale comme Chicago. Il dit, je ne vais pas le faire. Alors, devant son refus catégorique, ils ont dit, bon, on va aller à Atlanta, alors, en fait, qui est une ville, à ce moment-là, encore c'est plus petite que Chicago, mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus petite que Chicago. Et on lui avait fait le manager, le directeur de la boîte locale de la compagnie Atlanta. Et 40 ans plus tard, il est mort dans cette position. Il n'a jamais été promu pendant 40 ans après. Et la chose que je trouve le plus admirable chez mon père, c'est qu'il ne s'en est jamais plaint. Il se foutait complètement. Alors, donc, moi je dirais, ça c'est un exemple parfait d'un homme qui a refusé, en quelque sorte, il n'a pas fait de compromis pour réussir dans ce monde compétitif. Il a payé un prix pour, mais c'était un homme heureux. Qui avait une famille, nous sommes deux frères, et tout ça, et puis sa famille, c'était le centre de sa vie. On peut dire, un peu comme pour une femme, que la famille est le centre de sa vie. Alors, ça montre que les hommes peuvent faire ces choix, mais il y a toujours un prix à payer. Alors, je pense que, en conclusion, je dirais simplement la chose suivante, conclusion de ce que je dis par la conclusion de la soirée, que tout ce que nous pouvons faire, je crois, c'est de travailler pour démasquer ce jeu. C'est-à-dire, on ne va pas aller dans ce milieu et le réformer, exactement comme beaucoup d'hommes, peut-être honnêtes, vont dans la politique, ils disent, je vais réformer la politique, mais c'est eux qui se font avoir par la politique, n'est-ce pas? Donc on ne va pas aller réformer ces valeurs masculines. Mais on peut les démasquer, et on peut aussi créer un processus où de plus en plus de garçons, en particulier, et aussi des femmes, aient le courage d'affirmer les valeurs de coopération et de solidarité et d'entraide et de refuser de jouer ce jeu-là. Et je pense à ce moment-là, le rôle politique de la femme ne serait plus méconnu. Mais on n'est pas encore là.